Lors des deux dernières guerres mondiales, chaque camp faisait bénir ses canons et était persuadé qu'il avait raison et Dieu de son côté. C'est tellement ridicule que ça ferait sourire si ces conflits n'avaient pas entraîné des millions de morts et d'estropiés de part et d'autre. Et pourtant, il existe des guerres justes. À vous de trouver des exemples. Dans le domaine spirituel se déroule une lutte incessante où il n'y a jamais ni armistice ni paix de signé. Le royaume de Dieu et celui des ténèbres s'affrontent dans un conflit perpétuel. Le champ de bataille est ici-bas et l'enjeu est l'âme des hommes. Les combattants se disputent sur le terrain de la vérité. Les croyants défendent Jésus-Christ et l'enseignement des Écritures contre les prophètes de mensonges de tout poil. Je continue à lire dans le premier chapitre de la première épître de Paul à Timothée. « La charge que je te confie, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Verset 18. L'apôtre Paul écrit une lettre très amicale à Timothée, son collaborateur, son bras droit, son aide de camp et son ami. Mais il lui donne malgré tout des directives précises. Le mot traduit par « charge » est un ordre militaire qui ne se discute pas et qui doit être obéi. Timothée avait un devoir à remplir envers Dieu et son patron, l'apôtre Paul. Ce dernier ne plaisante pas parce que le contexte de cette épître est une lutte acharnée entre Timothée et les hérétiques qui cherchent à démolir l'Église de l'intérieur et qui puisent leur force et leur motivation dans le royaume des ténèbres. Paul confie une charge à Timothée. Le mot pour « confie » était utilisé pour un objet de valeur comme un dépôt d'argent à la banque. Ici, il s'agit de la vérité de Dieu pour laquelle Timothée est appelé à livrer un combat qui est nécessaire. Pour l'encourager dans cette voie, Paul lui rappelle qu'il a été appelé au ministère d'une manière surnaturelle, par le biais de prophéties. L'avenir de ce jeune homme est tout tracé. Il n'a plus qu'à foncer, mais ça ne va pas être de tout repos. Jésus-Christ appelle tous les hommes à la communion avec lui, ce qui est à la base d'une vie abondante, faite d'amour, de paix et de joie. Oui, mais ici-bas, ce n'est pas encore le royaume des cieux, ni même le ciel sur la terre, car la vie chrétienne est un combat fait de luttes, à la fois contre nos tendances naturelles à mal faire et contre les esprits méchants, les démons. L'apôtre Paul aussi devait constamment faire face aux assauts de Satan. Je continue le texte. « Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Verset 19. Le croyant n'habite pas une tour d'ivoire qui s'élève au-dessus du brouillard dense couvrant la plaine. Il vit en compagnie de gens qui ne partagent ni sa vision spirituelle du monde, ni ses convictions. De plus, il n'est pas un saint dans le sens de parfait. Il a des problèmes, des faiblesses et des tentations comme tout le monde. Alors, il lui est facile de tomber dans le piège de la mondanité et de compromettre sa foi en acceptant la façon d'agir des autres ou ses échecs personnels qu'il décrira comme normaux. Dans cette épître, Paul associe la foi et la bonne conscience à plusieurs reprises. Il s'agit du contenu de la foi, de la vérité de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. La bonne conscience est l'état de quelqu'un qui mène une vie droite. Une doctrine saine va de pair avec une vie saine. La vérité et la moralité sont inséparables. La croyance et le comportement doivent tous deux être conformes à la parole de Dieu. Les enseignements doctrinaux erronés ont leur racine non pas dans un raisonnement intellectuel biscornu, mais dans une vie corrompue. Les théologiens véreux enseignent une doctrine boiteuse parce qu'elle s'accorde avec leur péché. Les prédicateurs de mensonges qui sévissaient à Éphèse avaient probablement bien commencé dans leur foi chrétienne. Puis, par orgueil ou convoitise, leur vie morale s'est dégradée. Alors, pour s'accommoder à leur comportement déviant, ils ont compromis leur foi en modifiant leurs croyances. C'est ainsi qu'ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi, c'est-à-dire la vérité. Maintenant, ils se posent en prophètes de Dieu, mais ils enseignent des mensonges. Je finis le premier chapitre. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Verset 20. Hyménée est à nouveau mentionné dans la seconde épître, Alexandre aussi, mais comme ce nom était répandu, rien ne prouve qu'il s'agit du même homme. Ces deux personnes ont été livrées à Satan. La même expression se retrouve dans une autre épître de Paul concernant un homme dont le péché n'était pas d'enseigner de fausses doctrines, mais une histoire d'inceste puisqu'il cohabitait avec la femme de son père. À cette nouvelle, Paul a écrit « Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. » Fin de citation. Livré à Satan est une formule d'excommunication qui était en usage chez les Juifs. Elle impliquait, d'une part, l'exclusion du fautif de la communauté et donc son renvoi dans la sphère d'influence de Satan et d'autre part à ne plus le considérer comme un croyant. Le but recherché était d'amener cette personne à la repentance afin qu'elle mette de l'ordre dans sa vie de manière à pouvoir réintégrer l'assemblée le plus vite possible. Ailleurs, Paul décrit une situation où cette démarche a effectivement réussi. Les deux hommes que l'apôtre mentionne ont été livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Le verbe « apprendre » signifie « former, dresser, punir » au travers de souffrances physiques. Quant au blasphème, il consiste bien sûr à dire du mal de Dieu, mais aussi à prétendre parler en son nom alors que c'est pour tromper les hommes. Nous arrivons maintenant au chapitre 2 que je commence à lire. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Verset 1. L'apôtre Paul a laissé Timothée à Éphèse pour régler les problèmes qui se posaient à l'Église. Il lui donne maintenant les détails de son ordre de mission, ce qu'il va devoir faire en tant que pasteur. Au lieu de commander son disciple, Paul l'exhorte, mais avec passion. « Je recommande » est la forme verbale d'un des titres que Jésus a donné au Saint-Esprit appelé aux côtés du croyant et qui est souvent rendu par « consolateur » et qui veut dire « encourager » et « motiver ». Paul commence sa liste de consignes avec le plus important. En tout premier lieu, l'Église doit comprendre l'importance de sa mission auprès des hommes en priant pour eux. L'apôtre utilise trois mots. Demande, prière, supplication, qui sont très voisins, bien qu'il y ait quand même entre eux des différences subtiles. La racine du mot « demande » veut dire « être en manque de quelque chose ». C'est donc une prière relative aux besoins des hommes, tant dans le domaine physique que spirituel. Le mot pour prière consiste toujours en des louanges et à l'adoration de Dieu. Le troisième mot est « supplication ». Celles-ci sont faites en faveur de ceux qu'on affectionne, qui nous sont chers ou pour qui on éprouve de la compassion. C'est aussi le mot qui est utilisé pour les prières de Jésus et du Saint-Esprit en faveur des croyants. Ensuite, l'apôtre exhorte Timothée à communiquer aux Éphésiens qu'ils doivent adjoindre à leurs prières des remerciements. Le croyant doit manifester à Dieu un esprit de gratitude et lui rendre grâce pour le privilège qui lui est accordé de participer à son œuvre sur terre. Ces prières s'adressent à Dieu pour tous les hommes. De la même manière que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, citation du livre des Actes, le devoir des croyants est de prier pour eux. Dans la pratique, il s'agit surtout de ceux qu'on rencontre ou que l'on côtoie ou de ceux pour qui quelqu'un vous demande d'intercéder. Je continue le texte. « Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. » Verset 2. « Un grand nombre de gouvernants et de politiciens puissants et influents sont véreux, hostiles envers Jésus-Christ et, par la même occasion, la cible des citoyens mécontents. Peu importe la politique, Paul exhorte les croyants à prier pour ceux qui occupent une position d'autorité afin qu'ils se repentent et placent leur foi en Jésus-Christ. Or, à l'époque où l'apôtre écrit, l'empereur s'appelle Néron, un fou dingue sanguinaire, dépravé et blasphémateur qui persécutait l'Église. À côté de ce despote, ceux qui nous gouvernent, aussi filous qu'ils puissent être, sont des enfants de cœur. De toute façon, il vaut mieux être gouverné que l'anarchie, même si les politiciens au pouvoir profitent de leur position pour leur avancement personnel. Comme c'est Dieu qui a établi les gouvernements civils, il faut des personnes au levier de la nation, et les croyants ont la responsabilité de prier pour eux. Paul demande donc aux Éphésiens d'intercéder pour Néron et le Sénat romain afin que Dieu intervienne et permette aux croyants de mener une vie paisible. Donc, la première prière, c'est pour que ces gens se convertissent, et la deuxième, c'est pour qu'ils nous laissent tranquilles. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés à manifester l'amour et la bonté de Dieu envers tous les hommes. Et s'ils sont persécutés, ce sera à cause de leur fidélité à Dieu et non suite à des désordres qu'ils auraient produits. Car il va de soi que les croyants ne doivent pas perturber la vie sociale et nationale, mais être les premiers à respecter les lois. Par contre, ils devront désobéir s'il leur est demandé de violer les enseignements des Écritures, car leur allégeance est d'abord à Jésus-Christ et à la défense de la vérité. Nulle part dans ses écrits, Paul suggère de prier contre un politicien abject ou avec qui on n'est pas d'accord afin qu'il soit remplacé. Les croyants doivent au contraire être loyaux et se soumettre à ceux qui les gouvernent. Notre combat ne se situe pas dans le domaine physique, mais spirituel. Ailleurs, Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » Fin de citation. Paul écrit aussi à Timothée que l'idéal pour l'Église est de pouvoir vivre à l'abri de toute violence et dans la paix. Les deux mots traduits par « à l'abri de toute violence » et « paix » sont très rares. Le premier n'apparaît qu'ici et signifie « absence de perturbation extérieure ». Le second, aussi utilisé par l'apôtre Pierre, veut dire « absence de crise interne ». Quand les croyants manifestent amour, bonté et compassion envers tous les hommes, qu'ils soient dans l'Église ou en dehors, leur comportement atténuera l'hostilité dont ils peuvent être l'objet et ils auront moins de problèmes, aussi bien internes que suscités de l'extérieur. Le second idéal exprimé par Paul pour l'Église est de pouvoir mener une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Le mot pour attachement à Dieu est « eusébia », il revient 8 fois dans cet épître et a donné le prénom Eusèbe. Il pourrait être rendu par « pieux », une attitude qui révère Dieu. Le mot pour « respect » n'est utilisé que 2 fois dans cet épître et 1 fois dans Titre. Il exprime un comportement juste et droit. En d'autres mots, Paul exhorte les croyants à adopter une attitude pieuse et un comportement droit. Je continue le texte. Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve. Verset 3. On trouve l'expression « Dieu notre Sauveur » à 6 reprises dans les épîtres pastorales. La prière pour que tous les hommes se repentent et fassent confiance à Jésus-Christ est une activité que Dieu approuve pleinement parce qu'elle est noble, spirituelle et moralement bonne. Le mot pour « approuve » signifie « recevoir avec joie et satisfaction ». Dieu accepte, on pourrait dire, avec empressement les prières pour les non-croyants parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. L'intercession pour eux est approuvée de Dieu parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est pour tout le monde, même les pires des malfrats, qu'ils soient au sommet de l'échelle sociale ou tout en bas. Une telle prière est en accord avec Dieu parce que de nature, il est sauveur. Je lis un passage de l'Ancien Testament. Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Cependant, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui a pleinement révélé le Dieu sauveur. Je continue le texte. Car Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, mais il a choisi par décret, selon le conseil de sa volonté, ceux qui le seront effectivement. Mais comme ce décret est un mystère tenu secret, il n'est absolument pas possible de connaître ceux qui font partie des élus avant qu'ils ne répondent favorablement à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut aussi savoir que l'appel de Dieu aux hommes pécheurs est une invitation bona fide, sincère et de bonne foi. Je lis un passage de l'Ancien Testament. « Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ?» Fin de citation. Dans un sens qui nous échappe, le désir de Dieu est que tous les êtres humains du monde entier soient sauvés. Cependant, ce désir n'est pas équivalent à ses décrets, grâce auxquels il atteint les objectifs qu'il s'est fixés. Il existe d'ailleurs deux mots différents pour exprimer la volonté de Dieu. L'un signifie plutôt sa volonté décret et l'autre sa volonté désir. On peut expliquer la différence entre les deux au niveau humain. Par exemple, je désire passer mon prochain samedi à la pêche. Seulement, j'ai un objectif plus important dans ma vie que de prendre du poisson. Alors, je serai devant mon écran à travailler le plus clair de la journée. Pareillement, les objectifs suprêmes de Dieu transcendent et prennent le pas sur ses désirs. En ce qui me concerne, des circonstances que je ne peux pas contrôler peuvent me forcer à choisir ce que je ne désire pas. Une fois, je suis tombé d'assez haut et me suis cassé un des os du poignet. Ce jour-là, j'ai passé beaucoup de temps dans différents services hospitaliers, ce qui n'était évidemment pas la façon dont j'avais envisagé cette journée. Par contre, les décisions que Dieu prend ne sont jamais frustrées par les circonstances ou par qui que ce soit. Elles sont fixées par rien d'autre que les objectifs éternels que Dieu a souverainement déterminé à l'avance. Dieu désire bien des choses que, selon le conseil impénétrable de sa volonté, il n'a pas décrétées. En d'autres mots, Dieu n'a pas décrété tous ses désirs, mais seulement ceux qui sont en accord avec ses objectifs. Ça paraît compliqué, mais on peut comprendre. L'opposé est également vrai. Certains événements qui n'étaient pas ce que Dieu désirait, il les a décrétés parce qu'ils étaient conformes à ses objectifs. Par exemple, Dieu n'a pas voulu le péché. Cependant, et bien qu'il n'en soit pas l'auteur, la rébellion de Lucifer puis la désobéissance d'Adam et Ève contribuent à son plan. Je comprends pas tout ça, mais c'est quand même ce que les Écritures enseignent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Être sauvé, posséder la vie éternelle, c'est aussi connaître la vérité. Le mot pour connaissance apparaît 4 fois dans les lettres pastorales. Dans la longue prière à son Père, Jésus a dit « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. » Fin de citation. Seuls les élus que Dieu a choisis d'avance, de toute éternité et avant la création, obtiendront la vie éternelle. Les autres, ceux qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ, sont laissés de côté, c'est-à-dire dans leur péché, confrontés à l'absurdité de l'existence dans le présent, et ils seront jugés dans l'au-delà. Cependant, ils sont entièrement responsables de leur condamnation à cause de leur péché et surtout parce qu'ils rejettent le Dieu de Jésus-Christ en toute connaissance de cause selon ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains. Je lis le passage. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Fin. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Fin de citation. Je suis très conscient que ce discours sur la souveraineté de Dieu et la doctrine de l'élection est un enseignement très corsé et particulièrement lourd à digérer pour vous, mais c'est pareil pour moi.